Au même moment, les chefs allemands, maîtres de leur préparation et de leur peuple, fiers de leur science et de leur autorité, mettaient en œuvre un système mûrement étudié et dont tous les ressorts étaient tendus d'avance vers un but unique, l'étranglement brutal de l'adversaire. Schlieffen avait laissé en mourant ses plans gigantesques, pleins de fourbes et d'illusions, poussant en avant des masses colossales avec une violence combinée qu'on eût cru irrésistible. En fait, le plan se trouva forcé, inapplicable. Après la surprise de la bataille des frontières, parée aussitôt par le coup d'arrêt de la bataille de Guise, l'élan formidable fut brisé et les successeurs des disciples de Schlieffen durent renoncer, comme il eût été obligé d'y renoncer lui-même, à son ambitieux dessein d'encercler Paris par l'ouest et le sud pour infliger à l'armée française cette bataille d'enveloppement totale, cette bataille de Cannes qui devait régler d'un seul coup le sort de la guerre. La première grande armée d'invasion, déjà à demi disloquée, dut être ramenée de l'ouest à l'est, s'exposant à une marche de flanc devant Paris qui la mettait sous le coup de la manœuvre de Joffre. C'était le tour de l'armée française. Elle avait à sa tête un soldat qui n'était ni un illuminé, ni un pédant, ni un sabreur, homme de bon sens, tête solide, désigné par son labeur obstiné et ses services actifs, qui tenait bien en main, par une longue et forte préparation, toutes les ressources matérielles et morales d'un pays, surpris par l'offensive brusquée et par la manœuvre traîtresse de l'ennemi. Joffre se mit à la besogne, avec sang-froid, modestie et confiance.